Vous écoutez présentement l'épisode 2 d'une série de balados divertissants visant à éduquer et sensibiliser la société.
Salut, ici Audrey et bienvenue au balado Inspirante, conçu par et pour les femmes ou toute personne s'identifiant comme telle. L'idée de créer un balado ayant pour titre Inspirante vient des travailleuses du Centre Interfemmes afin de rejoindre une plus grande population, mais aussi de rendre notre contenu accessible à tous. Ce projet a vu le jour ici même à Repentigny et a pour but de présenter des modèles de femmes persévérantes et significatives, autant par leur parcours que par leur expertise. Le balado s'inscrit également dans une perspective de transformation sociale vers une société plus juste, sans exclusion, qui vise l'égalité entre les hommes et les femmes. Les sujets seront multiples, politique, cinéma, métiers non traditionnels féminins et plusieurs autres. D'ailleurs, nous vous invitons à nous faire part des sujets qui piquent votre curiosité sur notre page Facebook Centre Interfemmes ou par courriel à info@interfemmes.ca. Cette entrevue se veut non partisane et le Centre Interfemmes n'est aucunement associé à aucun parti politique. Bonne écoute!
Inspirante. 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 Inspirante.
Bonjour et bienvenue à toutes les personnes à l'écoute du balado du Centre Interfemmes. Aujourd'hui, le 24 mai 2022, nous accueillons avec plaisir Mme Jennifer Robillard. Je vous la présente. C'est une femme inspirante qui endosse bien le thème du Centre. Elle est conseillère municipale pour la ville de Repentigny depuis 2017 et coordonnatrice de la coalition Interjeunes. Bonjour Mme Robillard. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation afin de faire connaître la place des femmes et votre place dans le monde actuel. Je vous cède la parole afin que vous vous présentiez brièvement et par la suite, j'aurai une série de questions à vous adresser.
Bien, bonjour, un grand merci de me recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir d'être avec vous. Donc, vous l'avez bien dit, Jennifer Robillard, au chapeau professionnel, conseillère municipale ici à Repentigny et également coordonnatrice de la coalition Interjeunes. Je rajouterai maman de 3 jeunes enfants bien adorables, Lauren, James et William, qui ont entre 3 et 10 ans.
Hey, c'est une belle petite famille, ça! Parlez-nous de votre parcours scolaire, du genre d'élève que vous étiez, de vos ambitions de jeune femme.
Écoutez, ça remonte à loin déjà, les 40 ans approchent. Donc, je suis native de l'Assomption. J'ai toujours été impliquée dans ma région. J'ai grandi avec un frère un peu plus jeune que moi, avec 2 parents qui sont toujours ensemble aujourd'hui. J'ai fait mes études à l'Assomption, au collège de l'Assomption. Toujours très engagée et puis j'avais envie de découvrir le monde. Donc l'appel pour le cégep a été en sciences humaines profil monde, où j'ai eu la chance d'aller au Mexique là, comme première petite initiation, ce qui m'a donné la piqûre pour continuer les études en relations internationales et droit international à l'UQAM. Et j'ai poursuivi ensuite, là, à force de voyager puis d'étudier en relations internationales, je me suis mis à m'intéresser à ce qui se passait chez nous un peu plus. Donc, j'ai poursuivi avec une maîtrise en gestion des coopératives et des collectivités pour travailler un peu plus là, sur le volet coopératif. Je voulais faire de l'administration, mais sans le profit, davantage au niveau de l'être humain, la santé sur les besoins sociaux. Donc, c'est un peu mon parcours, mon cheminement académique. Et bien sûr, j'ai travaillé à côté de tout ça, là, toujours dans ma communauté, autant les emplois étudiants que finalement faire mon chemin au niveau de la coopération internationale.
Puis est-ce que votre réalité est loin de votre rêve d'alors?
Ah, c'est une bonne question. Souvent, je me demande si je suis sur mon X. On se pose toujours la question. Mais je dirais, plus jeune, je me voyais vraiment vivre à l'étranger. Puis, très jeune, j'ai rencontré mon mari. J'avais 17 ans là, quand on a commencé à être ensemble. Et on se demande, c'est ça, les femmes en coopération internationale, c'est toujours plus facile de suivre l'homme que d'être celle qui est suivie. Donc, lui aussi avait ses aspirations professionnelles, étant un peu plus vieux que moi. Hein. On a eu à se questionner à ce niveau-là. Est-ce qu'on part, on part pas? Lui, il avait vécu en Haïti dans sa jeunesse. Il voulait fonder une famille au Québec. Bref, j'ai décidé de rester puis de travailler davantage au Québec. Donc, est-ce que la jeune fille de 16-17 ans qui terminait le secondaire est exactement où elle était dans ses rêves? Je dirais que oui quand même, parce que je voulais travailler avec les gens, travailler dans ma collectivité. puis que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique ou au Québec à Repentigny, je pense que je suis au bon endroit. Là.
Ben, je constate que vous avez tout un beau bagage. C'est vraiment intéressant. Parlez-nous maintenant du début de votre carrière sur le marché du travail et les progressions que vous avez accomplies au fil du temps.
Oui. J'ai eu la chance de, contrairement à beaucoup d'étudiantes universitaires, là, j'ai eu la chance d'avoir mon emploi au Collège Assomption. Je travaillais comme animatrice de vie spirituelle engagement communautaire avec l'animatrice déjà en place. Donc, mon travail étudiant, c'était d'être avec les jeunes au quotidien, travailler pour Amnesty International, leur campagne dans les écoles secondaires. Je m'occupais d'événements jeunesse. Donc, j'ai vraiment eu la chance, en même temps que je faisais mes études, de pouvoir travailler quasiment dans mon domaine, bien entourée aussi avec des jeunes impliqués. Donc, ça a été une belle porte d'entrée pour pouvoir, après mon diplôme universitaire, de travailler dans le domaine plus de la coopération internationale, mais encore au sol québécois. Là, j'étais animatrice avec développement et paix à Montréal. Puis, fait que là, j'alliais un petit peu. Là, je travaillais au Québec, mais dans le volet international, j'ai pu accompagner un groupe au Salvador, notamment. Fait que ça me permettait d'être avec les miens tout en ayant un pied à l'étranger. Puis, par la suite, j'ai eu la chance de travailler avec Oxfam Québec durant 10 ans. En participation citoyenne. Ça a été un parcours quand même difficile parce que le milieu de la coopération internationale, c'est beaucoup de gens qui veulent s'impliquer. C'est difficile des fois d'obtenir un poste. On travaille beaucoup avec les fonds du gouvernement, donc en fonction des bailleurs de fonds, les projets vont et viennent. Mais j'ai eu la chance là, de me faire une belle place au sein de l'équipe là, durant 10 années. Et encore une fois, là, je me questionnais à toujours avoir le pied à l'étranger. Qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour les jeunes au Québec? Parce que dans tous les cas, là, que ce soit autant à l'école secondaire que chez Oxfam Québec, je travaillais en participation citoyenne des jeunes. Puis nos jeunes au Québec, j'avais envie de me rapprocher d'eux, de travailler davantage pour les jeunes Québécois et Québécoises. Puis quand l'opportunité, là, à la fin de mon congé de maternité, du troisième congé de maternité, est apparue avec la coalition interjeune, là, c'était pour moi un beau saut là, dans la réalité québécoise.
Puis les étudiants avec qui vous avez suivi votre cours, est-ce que ces personnes-là ont toutes trouvé de l'emploi et sont restées dans des emplois comme ça? Ou s'il y en a qui ont bifurqué en disant « non, c'est pas pour moi ça.
» Oui, exactement. En fait, il y en a pour tous les goûts. Quand on étudie en relations internationales, je dirais, on a l'utopie de se dire je vais aller changer le monde. À 17-18 ans, là, c'est un peu avec ça qu'on a en tête. Puis on se rencontre, c'est nous, dans le fond, qu'on essaie d'améliorer au quotidien, puis qu'on a tant à apprendre. Ça prend une formation là, pour aller travailler en coopération internationale. T'sais, ça va être des logisticiens, ça va être des agronomes, ça va être des ingénieurs. Donc, quand je suis sortie de relations internationales puis droit international, tu te dis, bon, ben c'est beau, je suis une belle généraliste, mais on n'a pas le choix de se spécialiser. Donc, plusieurs de mes collègues ont aussi bifurqué, soit de faire pousser des études, reprendre, mettons, de devenir avocat, par exemple, de refaire son droit et son barreau. Il y en a qui ont complètement sorti de la sphère aussi là, à ce niveau-là. Mais tout le monde a trouvé sa voie, là, finalement. L'important, une fois qu'on a des études, là, ça nous donne un beau bagage, peu importe ce qu'on veut faire dans notre vie, là, de trouver notre place. Là.
Mm-hmm. Et puis maintenant, le fait que vous avez une famille, est-ce que c'est possible de vivre une conciliation travail-famille ou si les embûches sont trop nombreuses?
Ça prend un conjoint ou une conjointe conciliante. C'est certain que c'est difficile parce que les besoins premiers, là, c'est avec les enfants. Fait qu'on va être là pour eux. La pandémie a fait en sorte que j'ai été à la maison durant 2 années. Fait que les Zooms pour le conseil de ville se faisaient à distance ou par téléphone. Le travail, c'est la même chose. Donc, ma petite poulette là, qui est née en 2018, maman a toujours été à la maison pratiquement avec elle. Donc, maintenant qu'on sort de la pandémie, là, les réunions, c'est souvent le soir. On va à des galas, on va à des premières, on a des réunions. Fait que c'est toujours avoir quelqu'un à la maison aussi. Là, souvent, les gens, surtout au niveau municipal, font ça à la retraite. On comprend pourquoi on n'est plus disponible, mais c'est important, je pense, de montrer aux enfants aussi que maman, elle aime ce qu'elle fait, puis elle est engagée. Donc, on arrange nos horaires avec mon conjoint. Il y a les grands-parents qui sont extrêmement présents aussi. Ma mère est une deuxième maman là, pour mes enfants. Fait que c'est une question qu'on a parce qu'on se demande si on a peur de manquer des moments aussi. Mais je pense qu'en 2022, on a avancé en termes d'acceptation, de conciliation, travail-famille. Les réunions, les gens sont plus surpris là, de voir une petite tête apparaître ou de devoir aller essuyer les fesses entre 2 meetings. Parce que là, la petite, c'est là, puis elle est en situation d'apprentissage, de propreté. Fait que c'est des situations cocasses que les gens acceptent beaucoup plus qu'avant. Mais ça reste difficile là, quand même au quotidien de jongler avec les horaires.
Bien, on a vu aussi un petit peu à la télévision, quand, des fois aux nouvelles, qui nous montrait un zoom avec ça peut être un ministre ou peu importe quelqu'un de, en position, et que l'enfant s'en vienne faire son intervention, vienne de passer. Et c'est ça, c'est accepté que c'est la famille, je pense, c'est à la base aussi là, de, dans les priorités. Là, quand ça, c'est bien, après ça, ben c'est faut que c'est sécurisé, ça va bien pour la suite des choses.
Ouais, puis c'est une bonne chose. La pandémie nous a amené malheureusement à une tonne de malheurs, là, puis de défis à surmonter, mais on va garder ce qui fonctionne bien. Puis je pense que justement, cette acceptation a permis quand même aussi, autant aux hommes qu'aux femmes, là, disons-le facilement, là, les femmes, on a tendance à prendre les rendez-vous médicaux puis être celles qui restent à la maison. Mais moi, j'ai vu l'acceptation du côté de mon mari aussi, de sa compagnie, qui laissait lui un peu plus prendre congé, jouer avec ses horaires, accepter les enfants qui passaient derrière la caméra. Fait que je pense que ça va nous avoir permis d'avancer à vitesse grand V les deux dernières années dans ce rôle-là, autant pour les femmes que les hommes, la famille, les enfants, ça reste une priorité, puis on n'est plus comme dans les années, je dirais 50 ou 60, que papa, il était absent 6 jours sur 7, puis pas de congé de maladie, là, c'est ça, les enfants, il faut qu'on s'en occupe, puis ils font partie du décor, là.
Oui. Qu'est-ce que signifie pour vous la phrase « l'avenir est féministe »?
C'était la campagne de la Journée internationale des droits des femmes cette année, en 2022. Donc, ben pour moi, l'avenir est féministe, c'est une question de justice, de solidarité. Comme on parlait tantôt de la pandémie, j'ai noté beaucoup de recul. Si on parle juste du point de vue là, nord-américain ou même québécois, les femmes ont été doublement impactées par la COVID. De rester à la maison, les emplois encore plus précaires, on devait choisir, ça a souvent été les emplois féminins là, qui ont été soit sollicités dans le milieu de la santé, soit sollicités à la maison. Donc, on pourra en parler longuement, mais pour moi, l'avenir est féministe, c'est de se re-questionner sur l'importance d'être unis ensemble, puis de pas se voiler que les droits des femmes, puis nos conditions quotidiennes, là, c'est pas acquis. On le voit avec ce qui se passe aux États-Unis avec le recul au niveau des droits à l'avortement. Les femmes, on est continuellement mises à mal. Puis, je pense que l'avenir des féministes, c'est de dire on travaille de façon unie, solidaire, équitable, que les programmes qui sont mis en place soient là pour les femmes. Peu importe, là, on parlait de conciliation travail-famille, mais pourquoi c'est à nous, les femmes, de majoritairement faire le choix de choisir entre les enfants puis le travail, là. Anecdotiquement, on parlait avec mes collègues au conseil de ville. On est quelques mamans autour de la table. Puis, mettons, si une réunion s'éternise, on dit tout le temps, les filles, hein, les enfants, il faut aller faire les lunchs, là, vous allez être fatiguées. Mais on a un collègue qui a un bébé. Quand est-ce qu'on lui demande si lui est fatigué puis s'il doit aller s'occuper du bébé? Fait que, tu sais, on a toujours ce petit réflexe-là, là, qui nous amène à dire, ben, oui, on va continuer. Quand on va être, l'avenir va être féministe, ben, c'est que les hommes aussi vont avoir embarqué dans cette parade-là, puis qu'on va être de façon solidaire ensemble. Là.
C'est ça, que la charge mentale soit répartie.
Oui, ça. Bien, on se l'impose beaucoup aussi, par bout les femmes, là.
Une valorisation à quelque part, là, c'est
des
ça.
Fois, il faut se faire une introspection. C'est pas grave, là. On est obligé de décider ce qu'il va manger avec papa quand je suis partie, là. Mais non, mais blague à part, c'est vrai qu'on en a une. Puis, on a essayé dans ma vie familiale. Moi, j'ai un enfant à un besoin particulier. Puis on a beau le dire, mettre les numéros de papa, le réflexe, c'est d'appeler maman parce que, ben, elle veut pas que le congé de maternité, en tout cas dans ma famille, c'est moi qui l'ai pris à 3 occasions. Ben, ils ont plus parlé à maman. Fait que c'est le réflexe, c'est d'appeler la mère. Mais là, des fois, ça nous brise le cœur de dire, j'aimerais ça des fois que ce soit papa qui gère les défis au quotidien ou qu'il y a dealé l'après-midi qui s'est mal passé, là. Mm-hmm. Mais c'est ça. Comme société, on va avancer là-dedans.
Ben oui. Vous êtes souvent impliqué dans des projets de coopération internationale, notamment au Pérou. Parlez-nous de cette expérience qui sort un peu de l'ordinaire pour nous autres, les repentinois.
Ah oui, c'est... Ben, en tout cas, j'ai fait vivre bien les émotions à ma mère au fil de ma vie, là, de toujours partir bien loin. Aller au Pérou, ça a été pour moi une belle réalisation professionnelle et humaine. C'est comme je dis, on a parlé d'entrée de jeu, j'ai toujours été intéressée par l'international. Donc moi, c'était un rêve de devenir coopérante volontaire. Puis toujours la conciliation qu'on peut être travail-famille, faire un choix de vie aussi en couple. C'est toujours reporté à plus tard. Puis là, suite à mes deux garçons qui étaient encore au primaire, là, ma fille n'était pas encore parmi nous. Donc, c'était comme un beau moment là, avant que les enfants rentrent à l'école, de partir. Donc, j'ai eu l'opportunité avec Oxfam de pouvoir partir au Pérou comme conseillère en participation citoyenne avec les jeunes de Lima. Ça fait déjà 7 ans là, que j'étais à l'emploi d'Oxfam en participation citoyenne. Fait que j'avais acquis ce bagage-là qu'on parlait tantôt, l'expérience, l'expertise, d'aller accompagner finalement des jeunes qui voulaient, à leur demande, des jeunes qui voulaient un peu plus se formaliser. C'était un mouvement citoyen jeunesse très fort qu'il y avait eu aux élections, suite aux élections au Pérou. Et puis, il y a des jeunes en communication, en environnement, en justice, en droits humains, etc., là, qui militaient pour un pays plus à leur image, là, plus équitable. Donc, j'ai eu l'opportunité de partir avec eux, puis on est parti en famille. Fait que c'était... papa restait à Montréal, à son travail à Montréal, puis il venait de temps à autre. Moi, j'ai eu les enfants une partie du temps, sont allés étudier en espagnol dans une garderie de Lima. Des fois, on se lance à l'aventure sans trop savoir en quoi on s'embarque, là. Fait que ça a été extrêmement formateur, une belle réalisation de rêve, mais en même temps, ça a été très dur. Les enfants se retrouver, ben c'est ça, papa là, pas là. On a tout vécu là-bas. Il y a eu des glissements de terrain, des coupures d'eau. Je suis tombée malade. Mais belle solidarité familiale, ma belle-mère, ma mère sont venues avec moi. Fait que ça a été une belle expérience humaine. Les collègues de travail au Pérou, les jeunes avec lesquels j'ai travaillé étaient extraordinaires. Puis ça nous replace aussi dans notre perspective de comme société, qu'est-ce qu'on vit au Québec, la chance qu'on a de vivre au Québec. Les jeunes ont appris l'espagnol, se sont fait des petits amis péruviens. On a voyagé à l'intérieur du pays aussi. Puis, c'est ça, les inégalités là, sont à puissance 10 là, à travers le Pérou. Ça me donnait envie de continuer à m'impliquer chez nous pour essayer à la fois de chanter « Changeons-nous ». Ça nous permet de changer le monde, comme ils disent. Hein.
Les enfants, est-ce qu'ils ont conservé leur notion d'espagnol ou si ça s'est dilué, rendu
ouais.
ici?
Malheureusement, ça s'est dilué. Quand on est revenu, on a vécu près d'un an au Pérou, on est revenu justement pour que mon plus vieux puisse commencer la maternelle. Puis il y avait besoin de support parce qu'on n'était pas capable d'avoir... on a quand même accès à la médecine ici, là, fait que ça, on a réussi à... On avait besoin d'avoir un petit peu d'aide pour l'accompagner. Puis ils sont revenus, mon plus vieux était parfaitement bilingue, donc il me parlait très bien français, puis il parlait en espagnol à ses éducatrices ou aux petits amis là-bas. Mon deuxième, il est revenu, il parlait exclusivement espagnol.
Donc, ah oui!
C'était un espagnol un peu boiteux, là, mais ça, on a dû travailler le français, parce que même là, on a conservé comme preuve là, son bulletin d'orthophoniste qui venait à la garderie pour dire que sa langue première était l'espagnol, ce que je trouvais bien cocasse, là. Mais il y avait de la difficulté justement avec son français, fait qu'on a on a mis les bouchées doubles là, pour qu'il puisse bien prononcer, mais moi je n'entendais même pas. C'est les autres qui me faisaient remarquer là, qu'il y avait des petits mots espagnols glissés là, puis ces phrases. Fait que juste que là, il est en deuxième année, puis il me le dit encore en fin de semaine, il dit « Ah maman, moi je roule beaucoup meilleur. » Mais j'ai dit « Sois fière de ton accent,
ben oui.
c'est correct mon amour, là on est tous différents, on parle tous d'une façon différente, puis toi tu as eu un bagage... À tes 3 ans, là, t'es allé vivre au Pérou, puis t'as appris. Fait que ton oreille s'est faite aussi, puis on essaie. Là, la télé, il parle avec des amis aussi à l'école, mais lui, c'est ça, il commence à le perdre, mais bon, on va retravailler là-dessus avec les amis. Là.
Un jour, vous avez senti l'appel de vous lancer en politique. Quelle a été la bougie d'allumage pour arriver à prendre une telle décision?
Ben c'est le Pérou encore une fois. Donc j'ai vraiment eu la vie des fois quand on nous dit quand une porte se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre quelque part, puis moi ça a été vraiment mon cas. Décider de partir du Pérou pour accompagner mon fils, c'était quand même un deuil professionnel à faire parce que comme on l'a dit tantôt, c'était un rêve pour moi de devenir coopérante. J'avais une belle équipe au Pérou, j'y vais une belle expérience professionnelle, des jeunes extraordinaires. Donc, je me questionnais en sachant que je rentrais plus vite que prévu au Québec, mais j'avais ce désir-là, je me disais, tu sais, chez nous, on peut faire quelque chose sans avoir notre vie qui est menacée. Je peux m'impliquer en environnement sans avoir peur qu'une balle transperce ma fenêtre durant la nuit, que ma maison soit incendiée. Donc, j'avais cette conscience-là, puis j'avais envie, je parlais avec des collègues qui avaient travaillé notamment avec l'Institut du Nouveau Monde. Fait qu'on parlait de politique entre Québécois ou coopérants expatriés. Puis, le lendemain de mon retour du Pérou, donc je suis atterrie le 15 juillet 2017, le 16 juillet, le lendemain au matin, on cognait à ma porte pour me présenter un candidat qui se présentait dans mon district. Donc, j'ai jasé, là, le chef de parti à ce moment-là, il était là. Puis, on a jasé ensemble, puis il m'a dit, il me semble, là, toi, il me reste quelqu'un, il me reste une place dans mon équipe, là, ça te tenterait pas. Mais attends une minute, là, ça fait pas 24 heures, je suis débarquée de l'avion, là, j'avais appelé l'univers avec un nouveau projet, mais je pensais pas que ça serait vite comme ça. Fait qu'on s'est parlé, il me présentait des gens de l'équipe, puis je me suis dit pourquoi pas. Je venais de me dire, je voulais être plus impliquée dans ma communauté, puis un peu faire ce que, tu sais, j'étais là en participation citoyenne à les aider, les jeunes à se regrouper, à faire les dédales, la formalisation, puis l'incorporation, puis le con, les bailleurs de fonds, puis prendre sa place, puis l'import. Ben vas-y, toi aussi comme jeune, là, j'avais 34 ans, fait que les femmes en politique, en bas de 40 ans, il y en a. En tout cas, il y en a de plus en plus, mais à l'époque, il y en avait un peu moins, déjà, il y a 4 ans. Fait que j'ai dit pourquoi pas, j'ai sauté, j'ai pris l'opportunité en me disant, ben, je vais faire connaître mes idées. Moi, c'était ça mon objectif, de vivre l'expérience d'une campagne électorale, de faire partie d'une équipe, de brasser des idées, d'amener un peu plus de, tu sais, les notions d'environnement, de, ben, le commerce équitable, l'action locale. Donc, c'était un peu ce qui m'intéressait, là. Puis, bien sûr, la participation citoyenne dans son ensemble. Puis, j'ai eu la chance de, par cette voie, d'être élue. Par cette voie. Puis, on a vécu l'expérience jusqu'au bout, jusqu'au recomptage. Mais c'est une belle opportunité que les citoyens m'ont donné d'y représenter. Puis, j'en suis bien heureuse, là.
Puis, quel accueil avez-vous reçu face à votre décision de faire de la politique de la part de vos collègues de travail et même de votre entourage personnel?
Une autre affaire qu'elle nous amène. Mais c'était une autre aventure, mais je dirais qu'après les aventures à l'international, il était content que ça se passe finalement au Québec. Puis un appui, là, c'est un de mon mari, là, dans la conversation qui avait dit, « Ça me semble que tu serais bonne, toi, là-dedans. Là. » Fait que c'est une décision qu'on prend quand même en famille parce que ça prend du temps. Ça prend une équipe derrière toi, comme on disait tantôt, mais les enfants, ils se gardent pas tout seuls. Donc, on doit avoir quelqu'un à la maison. C'est souvent les soirs, les week-ends, les citoyens nous appellent, ben honnêtement, jour et nuit. Fait qu'il y a tout le temps cette espèce d'agenda-là à prendre en compte. On se déplace dans des événements, on devient une figure publique aussi, même si, bon, on n'est pas aussi populaire que Monsieur le maire, là, comme conseiller. Mais ça reste que les gens nous reconnaissent. Fait que ça prend un support d'une famille derrière nous. Puis, au niveau du travail aussi, les gens m'ont encouragé, étaient super heureux de ma décision. Encore plus quand j'ai gagné. Je me suis fait dire par un collègue de travail, il dit, c'est vraiment de matérialiser ce que tu promues depuis 10 ans, là, de passer de la formation à l'acte, disons-le, là, avec les. Comme jeune, puis on parlait d'influence avec Oxfam beaucoup à ce moment-là dans les campagnes, puis comment réussir à changer notre société. Puis je pense qu'on est une génération qui sautons à pieds joints là, justement pour influencer les décisions. Là.
C'est ça. Que diriez-vous à une jeune femme qui voudrait se lancer en politique en 2022?
Go! Allez, vas-y! C'est certain qu'il faut y réfléchir parce que ça prend de la place, puis il faut être prêt à donner cette place-là aux citoyens aussi. On est d'abord là pour les représenter, fait qu'il faut avoir un amour. Si tu sais, comme jeune femme, si tu as l'amour du citoyen, tu as envie de t'engager, tu as des idées, ben tu as ta place. On a besoin de femmes en politique, encore aujourd'hui, il y en a de plus en plus, mais c'est ça, tu sais, le Boys Club, est, comme on parle, il est jamais très loin, on fait rire les collègues, on le mentionne des fois, on essaie de se faire notre Girls Club à côté, là, mais... Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut travailler ensemble. Mm-hmm. C'est à la porte des réalités. Moi, j'ai été la première conseillère, à Repentigny à avoir un bébé en cours de mandat. Donc, c'est ça. À l'été, à séance du conseil de ville, jongler avec ces horaires-là, amener la petite en réunion, ça dépoussière un petit peu nos façons de faire. Mais qu'on soit, c'est ça, avec une famille, qu'on soit retraité, qu'on soit, tu sais, jeune, aîné, peu importe, les femmes, on a notre expérience à nous qui nous permet de jeter un regard que, tu sais, que je sois jamais eu ou qu'il y a eu très peu d'attention au sein de la politique. On fait les choses, puis notre expérience est différente, donc ça vaut la peine de se lancer.
C'est-tu déjà arrivé lors d'une réunion du conseil avec du public, là, que des citoyens ont semblé manifester une inquiétude, de dire « qu'est-ce qui se passe là? » Ou si les gens ont toujours tout bien accepté d'avoir un enfant qui se retrouve au conseil?
Les gens, les citoyens sont extraordinaires. Ils ont toujours été extrêmement accueillants. Oui, par surprise, là, je me souviens, le premier budget, les budgets à Repentigny, là, c'est toujours très tôt. Là, 4h30, là, on faisait les budgets. ben là, papa, il a pas le temps de redescendre de Montréal pour venir s'occuper, puis il faut qu'il aille chercher les autres à la garderie. Fait que la petite était avec moi, puis il y a une citoyenne qui m'avait dit, mais là, tu vas pas faire la rencontre avec la petite toi, non? Ben oui, c'est ça la réalité à notre époque, puis il y en a pas de garderie, là. On a adapté, là, il y avait pas de table à langer à l'hôtel de ville, ben on en a installé une. Au début, je changeais le bébé sur le bureau du greffier, là. Ça fait des situations cocasses, mais autant l'administration, les employés que les citoyens et les citoyennes, là, m'ont vraiment bien accueilli. En fait, je pense que c'est une des choses que j'avais pas la petite, mais... de voir une jeune femme se présentant en politique. Je pense que c'est le capital de sympathie que je suis allée chercher en 2017 aussi. Les gens me le disaient beaucoup, on aime Madame Deschamps, mais on est content de voir une jeune femme, même si elle n'est pas dans son équipe, là. Fait que ça a été noté. Puis, aux dernières élections, là, les gens me le disaient, ah, c'est vous, ça, avec le bébé, là. Ben oui, ça, c'est moi. Puis maintenant, ben, on a d'autres mères de famille au conseil de ville, puis tant mieux si ça en inspire d'autres, là.
C'est ça, c'est d'ouvrir des portes et pas hésiter. C'est... Quand t'es la première, mais tu rouvres pour d'autres, c'est...
Ouais, puis ça s'est quand même bien fait, là, vraiment, là, tu sais, je tiens à remercier tout le monde. Toujours, tu sais, un aide, les gens se sont toujours portés volontaires pour « Ah, gars, je vais la prendre un peu » ou « Viens la changer ici » ou très tolérant, l'inviter dans les... tu sais, à prendre une photo avec le bébé, fait que c'est... Ça fait un rapprochement aussi avec la population, tu sais, c'est... On démystifie un peu le rôle, on devient un peu plus accessible, je dirais, aussi avec nos enfants. D'autres fois, quand ils sont à l'âge de courir partout, là, on se sent un peu plus mal, tu sais.
Il y a plus d'un an, vous avez écrit un article « Au-delà de la DPJ, des jeunes sont encore dans l'angle mort du gouvernement ». Pensez-vous que votre article a eu un impact, que cela a fait bouger un peu les choses?
Ouais, quand on écrit ce type de lettre ouverte là, dans les médias, c'est surtout pour attirer l'attention, je dirais, des gens qui, des fois, ne nous retournent pas d'appel. Donc, dans ce sens-là, oui, ça a réactivé certains dossiers, des coups de téléphone qu'on attendait sont apparus. C'est aussi de mettre dans l'opinion publique là, des enjeux qu'on voit un peu moins. Mais dans les faits, là, les dernières décisions du gouvernement, que ce soit au niveau du budget, que ce soit au niveau des annonces de programmes, c'est difficile. On est beaucoup dans un angle, ben les jeunes sont soit à l'école ou les jeunes sont en formation, mais les jeunes qui se retrouvent un peu nulle part là au sein de nos organismes communautaires, qui est sur du long terme, c'est difficile de réussir à faire bouger le gouvernement puis d'avoir des sommes qui descendent pour des... Les résultats sont pas tangibles. Hein? Comment qu'on mesure le raccrochage scolaire quand un jeune est complètement... Ça se fait pas en 6 mois, là. En situation de précarité, que tu dois à la fois te loger, te nourrir, retourner aux études. Donc, c'est des choses qui sont moins sexy à financer sur le long terme. Puis, on est beaucoup dans... On a reçu des nouvelles sommes, fait qu'on est quand même content là, pour certains de nos organismes, là, avec la coalition interjeune, par exemple, les Auberges du Cœur ont eu un rehaussement de leur financement, fait qu'il y a quand même des gains qui sont à noter, mais de façon générale, là, c'est difficile d'aller chercher des jeunes de qui on parle moins régulièrement. Les maisons des jeunes sont vraiment sous-financées, par exemple. Il y a des maisons qui sont obligées de fermer, des programmes qui sont mis sur pause où les heures sont réduites. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Puis j'espère que ça ne prendra pas plein d'autres lettres ouvertes là, pour faire bouger le gouvernement. Là.
Bon, comme on approche de la fin de notre rencontre, j'aurais une dernière question. En tant que femme et dans toutes vos implications, est-ce que vous réussissez à vous garder du temps pour vous ressourcer, pour reprendre des forces?
Ben si, l'implication fait partie de mon ressourcement, donc j'en ai plein de temps pour moi. Mais c'est certain que je me garde des moments, là, on les garde des blocs familiaux surtout. Là. Hier, avec la journée de congé, on jardinait avec les enfants, puis on sort les vélos, puis on prend le temps de faire des vacances, d'aller au cinéma, de lire un bon livre, de faire un bon repas. Donc, c'est ça, j'essaie de le prendre en famille, mais c'est certain que mes journées sont longues. À travailler en temps plein à la coalition interjeune, puis comme conseillère également, c'est du temps plein, mais c'est un don de soi, puis moi, ça fait partie. J'ai été engagée de façon bénévole toute ma vie, donc c'est une continuité là, qui est presque de l'activité pour moi, de ressourcement.
Pour terminer notre entretien, je tiens à vous remercier pour le bel échange que nous venons d'avoir. Vous êtes une femme inspirante, et plus les femmes trouveront du plaisir à s'impliquer comme vous le faites, ou même à une plus petite échelle, le monde ne pourra que s'en porter mieux. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite des choses. Merci Madame Robillard et au plaisir d'échanger à nouveau avec vous.
Ça fut un grand plaisir, merci à vous.
Un grand merci à notre animatrice Muriel Sauvé qui a eu le courage de nous prêter sa voix le temps d'un épisode. De la part de toute l'équipe d'Interfemmes, nous sommes très fiers de toi. Un énorme merci à Madame Robillard pour son temps et son discours bien inspiré. Un merci bien spécial à Jérémy Parent, agent de projet à la table régionale des organismes communautaires autonomes de la Naudière, qui nous aide à la mise en œuvre générale du projet. Les trames sonores que vous avez entendues proviennent du site web Upbeats et ont été créées par les artistes Paolo, Caladi et Walls. Mais le plus important, merci à vous, chers auditrices et auditeurs. On espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à nous écrire par courriel ou par Facebook pour nous laisser savoir qui sont vos femmes inspirantes que vous aimeriez entendre dans les futurs épisodes. À bientôt!